Nous sommes en direct, 9h28, très 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 heureuse de l'accueillir à l'émission Info Centre-Ville. Dominique Anglade, femme politique, femme d'affaires, elle est actuellement députée provinciale de la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne, chef du Parti libéral du Québec et chef de l'opposition officielle du Québec. Bonjour Madame Anglade.
Bonjour.
Bien heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Nous avions un débat avec mon journaliste et le débat était le suivant. Est-ce que c'est un constat d'échec pour le gouvernement Legault en ce moment?
Je pense que oui. Je pense que vous faites, si vous dressez le portrait, c'est un constat d'échec parce que on est en train de revivre les choses que l'on a vécues lors de la première vague. Il y a clairement une perte de contrôle de la part du gouvernement. Si vous regardez simplement de manière générale, les Québécois ont respecté les consignes qui étaient parmi les plus strictes au monde, avec une population vaccinée quand même importante, au-dessus de 90%, et malgré tout ça, le pire bilan au pays, il est encore au Québec avec le gouvernement de la CAQ. Donc oui, c'est un constat d'échec qu'il faut dresser absolument.
Alors vous êtes sorti très justement, je l'ai déjà dit au micro, en demandant une rentrée parlementaire hâtive. Je le dis justement parce que c'est important que les oppositions jouent un rôle dans cette pandémie et donc finalement c'est une fin de non-recevoir, quoi.
Oui, le gouvernement, le François Legault n'est pas intéressé à faire ça. Il n'est pas intéressé à avoir une rentrée active. Écoutez, il a même préféré envoyer son ministre des Finances aller rencontrer David Batman pour parler de retour des Nordiques, alors qu'on n'est pas capable de faire en sorte de rencontrer le premier ministre à l'Assemblée nationale. Ce matin, là, moi, je suis à l'Assemblée nationale et je vais faire un point de presse ici, parce que c'est important qu'on comprenne qu'il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. François Legault nous tient dans la noirceur. Il alimente cette noirceur. On l'a vu avec la crise dans les CHSLD. On le voit avec ce que le coroner nous dit, la coroner qui n'est même pas capable, finalement, de dresser un bilan de ce qui s'est produit malgré ses recherches. On nous tient dans la noirceur, on ne dit pas l'information et les conséquences, c'est la population qui les vit, c'est les gens qui attendent désespérément d'avoir des chirurgies, c'est la situation qui est vraiment problématique.
Qu'est-ce que vous avez pensé de la sortie de Marguerite Blais? Est-ce que vous croyez à ce qu'elle a témoigné?
Est-ce que je crois, pardon, j'ai pas compris la
À son témoignage à Marguerite Blais.
Le témoignage de Marguerite Blais. Ben écoutez, premièrement, il y a des témoignages qui sont contradictoires. On a d'un côté le docteur Arruda, Madame McCann, Monsieur Gendron qui nous dit, dans le fond, depuis janvier, on savait que ça allait toucher particulièrement les personnes vulnérables. Puis on a maintenant de l'autre côté François Legault et Marguerite Blais qui nous disent, ah ben non, finalement, on n'a pas su avant le mois de mars. Alors qui dit vrai? D'où la frustration évidemment de la coroner qui dit, c'est pas normal que je sois pas capable d'avoir une réponse claire. Vous ne saviez pas. Vous n'avez pas agi. Et j'aimerais rappeler qu'il y avait le rapport de la protectrice du citoyen qui disait qu'il y avait des signes avant-coureurs qui n'ont pas été considérés par François Legault dans la gestion de la crise par rapport au CHSLD. Donc tout ça fait en sorte, encore une fois, qu'il y a une espèce de brouillard, de noirceur qui règne autour de tout ça. Et je pense que si on avait tenu une commission d'enquête indépendante depuis le début de cette tragédie-là, au moins aujourd'hui, on aurait des résultats préliminaires qui nous orienteraient dans une cinquième vague.
Donc, vous souhaiteriez avoir une enquête publique là-dessus?
Absolument, parce que l'enquête publique indépendante permettrait d'avoir des réponses. On a quand même plus de 12 000, c'est un petit chiffre, Québécois décédés de la COVID avec des conséquences énormes sur leur famille. On a des gens dont les chirurgies, les cancers ne peuvent pas être traités à temps. On a des entreprises qui ont fait faillite, des petits entrepreneurs qui ont tout perdu. Je veux dire, il y a des conséquences énormes à cette crise et la moindre des choses, c'est qu'on soit capable de comprendre, un, ce qui s'est passé, les décisions qui sont prises, surtout pour améliorer les choses dans une éventuelle autre vague, parce qu'on ne peut pas continuer à gérer de cette façon-là, avec fermeture et mesures hyper strictes, alors qu'ailleurs, ce n'est pas le cas.
Alors aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Est-ce que vous croyez que c'est sécuritaire? Est-ce qu'il y a encore beaucoup trop de flou et d'insécurité pour maintenir les écoles ouvertes?
Alors là, vous parlez à la maman qui a 3 enfants qui retournaient à l'école ce matin. Moi, je veux le retour des enfants à l'école, c'est certain, mais est-ce que vous me posez la question s'il y a des enjeux encore et des flous? La réponse est oui. La réponse est oui, puis c'est pour ça que c'est en demi-teinte cette rentrée-là. On espère tous que ça va bien se passer, mais on se serait attendu à ce que toute la question des aérosols, de la ventilation dans les écoles soit réglée avec un l'argent du fédéral, mais deux la volonté de François Legault de faire ces changements-là. Et on se serait également attendu à le déploiement des tests rapides. Alors moi, j'ai hâte de voir qu'il va revenir avec une boîte de tests rapides aujourd'hui pour pouvoir gérer ça, sans parler du manque de personnel, évidemment. Ça, c'est l'autre enjeu qu'il y a. Qui va être important. Et à mon avis, il va bien falloir qu'on commence à parler de la réussite éducative de nos jeunes. Hein.
Alors, le gouvernement Legault dit que les hôpitaux sont pleins, il y a une pénurie de personnel parce que c'est la faute aux non-vaccinés. Or, depuis 40 ans, c'est un laxisme. Les hôpitaux, ça a toujours été comme ça, surtout après Noël. Les gens sont... On a vu en 2018 une première page du journal de Moral qui disait que c'était incroyable le nombre de gens hospitalisés. Ça existe depuis longtemps, ce problème de pénurie de personnel et de gestion. Qu'en pensez-vous?
Ben, je pense que ça existe depuis un certain temps, en effet. Premièrement, je pense que vous avez raison comme vous dites. La pénurie de main-d'œuvre, c'est pas quelque chose qui est nouveau, mais tout s'est accentué avec la crise de la COVID. Et en plus, il faut se rappeler que quand ils sont arrivés au gouvernement, François Legault disait l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre, c'est pas l'enjeu prioritaire de toute façon. Donc tout ça s'est accentué avec le temps. Puis je pense que c'est tout le système de santé qui est mis à mal. Et encore une fois, quand on a une population aussi vaccinée que la nôtre, quand les mesures sanitaires sont aussi importantes que les nôtres, il faut se poser la question pourquoi on a le pire bilan. Puis je pense que une des réponses à ça, c'est le fait que François Legault, dans sa manière de gérer, répète sans arrêt les mêmes erreurs, le manque d'anticipation. Ça fait un an qu'on parle des tests rapides, ça fait un an qu'on parle de ventilation dans nos écoles, ça fait un an qu'on parle d'avoir une enquête publique indépendante pour connaître puis s'améliorer, et tout ça n'a jamais eu lieu. Donc c'est pour ça qu'on est encore maintenant dans une espèce de noirceur, et là ça a un impact réel sur les gens sont anxieux, les gens sont stressés, certains ont peur, et ça devient de plus en plus problématique.
Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu justement de vous allier toutes les oppositions pour dire nous sommes là, parce que tout le monde a été assez frileux, peut-être vous avez dit vous êtes resté dans la noirceur et on vous a tenu dans la noirceur, mais presque 2 ans après, il n'y aurait pas lieu de vous asseoir, les oppositions, et de participer justement aux politiques de cette crise davantage, que vous gériez ensemble cette crise. Il n'y aurait pas lieu de faire une proposition à l'Assemblée nationale dans ce sens-là?
Écoutez, j'ai fait je ne sais plus combien de propositions en ce sens. J'ai demandé un retour à l'Assemblée nationale, j'ai demandé des rencontres, il n'y a rien qu'on n'a pas fait justement de notre côté pour juste avoir les discussions. Mais je pense que François Legault, il n'a pas envie de s'asseoir avec les oppositions. Il n'a pas envie de s'asseoir avec les oppositions. Il n'a pas envie de prendre en considération les propositions que l'on fait. Toutes les propositions qu'on a faites sur les ratios, le nombre de patients par rapport au personnel, les propositions qu'on a faites pour les urgences qui étaient fermées, les propositions qu'on a faites sur la santé mentale pour qu'il y ait un accès universel sur la psychothérapie, la proposition de retourner à l'Assemblée nationale puis de débattre des mesures qu'ils proposent, etc. Tout ça a reçu une fin de non-recevoir. Donc, moi, je continue de proposer, mais à la limite, à un moment donné, tu te tannes aussi parce que tu te dis, ben là, ça me donne quoi, moi, de proposer? C'est sans arrêt. Tout ce qu'on fait, c'est nous fermer la porte au nez puis dire, non, nous, on sait, puis on continue dans la même façon de gérer. Cette façon de gérer, là, elle a un coût énorme pour notre société aujourd'hui.
Alors, au niveau des propositions, ça fonctionne pas. Maintenant, si je vous pose la question à vous, Dominique Anglade, vous avez dit que c'est un constat d'échec. Vous seriez au pouvoir aujourd'hui. Vous seriez la première ministre du Québec. Vous feriez quoi et comment vous géreriez cette crise?
D'abord, j'aurais clairement séparé les rôles du politique puis du scientifique. Alors, c'est très possible qu'il y ait des points de la santé publique qui informent la population, puis après, des décisions politiques qui sont prises et que les gens fassent bien la différence. J'aurais également mis très rapidement, dès le départ, il y a un an, puis j'avais proposé toute une stratégie pour avoir des tests rapides déployés partout pour nous permettre d'au moins être capable de dépister rapidement puis ne pas se retrouver dans la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Tout à l'heure, c'est une question de la ventilation dans nos écoles, on aurait eu un accent mis particulier là-dessus. Et j'aurais ajouté dans la cellule de crise plus de scientifiques et d'experts, parce que c'est une cellule de crise qui est essentiellement une cellule de communication, mais pas une cellule avec des experts autour de la table. Et dès la première vague, une fois terminée, j'aurais déclenché une enquête pour qu'on puisse tout de suite savoir ce qui s'est passé et qu'on puisse apprendre de ça et mettre les choses en application, les résultats en application. Alors, nous, je n'aurais pas géré cette crise-là de la même manière, absolument pas. Puis je pense que toutes les propositions que j'ai amenées dans les deux dernières années témoignent du fait que c'est pas de cette manière-là dont j'aurais géré la crise, encore de fermeture et sans impliquer plus de personnes. Dans un moment comme ça, on a besoin d'élargir nos horizons, d'avoir différentes perspectives et de surtout dire la vérité, de dire les choses, d'être transparent dans notre manière de présenter les choses et pas de faire de la diversion avec les nordiques, avec le baseball, avec toutes sortes d'autres sujets qui ne sont pas les sujets qui nous préoccupent aujourd'hui.
Alors, c'est carrément criminel, on reporte les chirurgies. Est-ce que vous auriez fait ça? Vous reportez les chirurgies de gens qui ont un cancer ou des traitements? Parce que là, on parle de délestage.
Là, maintenant, on est rendu dans... C'est terrible ce que les gens vivent. Je veux dire, on regardait des gens qui... une jeune femme, 4 enfants. Qu'est-ce qu'elle a à dire à ses enfants par rapport à ce qui se passe? C'est quand même extrêmement rigoureux à entendre. Et c'est pas normal. Le système a quelque chose qui est fondamentalement brisé dans le contrat social, parce que on est supposé être là quand les gens en ont besoin. Pas tout le temps, mais quand les gens en ont besoin. Or, aujourd'hui, liste d'attente énorme pour l'accès à un médecin de famille, pas capable de traiter les patients dans un délai raisonnable. Tout ça, c'est extrêmement difficile. Mais je crois, encore une fois, qu'il va falloir aussi qu'on revoie notre système de santé et que François Legault prennent la responsabilité du fait qu'ils refusent de regarder, d'aller en profondeur sur ce qui s'est passé, ce qui nous empêche d'avoir tout l'éclairage nécessaire pour la suite des choses. Et ça, c'est pas acceptable.
Alors, vous avez dit plusieurs fois que vous voulez être première ministre du Québec. Qu'est-ce que vous allez faire pour les prochaines semaines pour déployer une équipe, nous montrer que vous avez une équipe forte au sein du Parti libéral?
Bien, alors, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent cette année puisque c'est une année électorale. Donc, évidemment, l'équipe qu'on va présenter va être importante, mais également les idées qu'on veut mettre de l'avant. Puis comprendre ce que les gens vivent concrètement, là, l'inflation qui est énorme, les gens ont de la difficulté d'un point de vue économique, ce n'est pas facile, l'accès au logement, c'est pas facile, ça a des répercussions sur ce que les gens vivent, aussi cette insécurité financière, il y a la question environnementale qui va revenir, on a proposer un projet de société qui s'appelle Éco pour qu'on puisse combiner l'économie et l'écologie. Donc, ce projet de société-là est porteur pour tout le monde. Tout le monde peut s'y raccrocher, avoir de la vision et puis évidemment parler du système de santé qu'on va devoir revoir, ça c'est bien évident. Donc, tout ça, ça va faire partie de ce qui va être présenté dans les prochains mois d'ici à la campagne électorale.
Alors, le sort du docteur Barrette, est-ce qu'il va revenir dans l'équipe ou il lâche la politique pour de bon? Est-ce que vous allez le retenir? Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs là, à son sujet.
Gaëtan a annoncé qu'il ne se représenterait pas. Alors, il ne se représentera pas en 2022. Il ne sera pas candidat en 2022. Il finit son mandat et il ne se représentera pas.
Est-ce que vous avez déjà un candidat que vous souhaiteriez confier la santé dans votre cabinet?
Ah ben là, on a il y a plusieurs personnes qui vont se présenter avec nous, mais on n'a pas d'annonce à faire maintenant. On les fera en temps et lieu, mais soyez assurés qu'on est en train de monter une très belle équipe, très belle équipe.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parties, hein. C'est le renouveau en ce moment.
Ben, c'est le renouveau. C'est sûr qu'on est, on avait un virage à effectuer au sein du Parti libéral. Je pense que les gens prennent conscience du virage que l'on a effectué. Maintenant, il faut aussi une équipe pour incarner tout ça. On a déjà au sein de notre caucus des gens qui font partie de ce renouveau-là, mais l'équipe va se faire grandir, évidemment.
Alors, parlez-moi de Marie-Victorin, de la personne qui va représenter le Parti libéral. Est-ce que vous avez une date, premièrement, et est-ce que vous êtes prête?
Dans Marie-Victorin, vous voulez dire?
Oui, dans Marie-Victorin.
Ah oui. Alors oui, on a Émilie Nollet, c'est notre candidate. Alors Émilie, c'est une entrepreneure, c'est une chercheuse universitaire. Elle est déjà sur le terrain dans Marie-Victorin. Elle est déjà à l'écoute des gens de Marie-Victorin avec des enjeux spécifiques, des enjeux sociaux et économiques qui rejoignent beaucoup les gens là-bas. Elle a été annoncée déjà au mois de novembre. Donc ça lui permet justement de sillonner les rues de Marie-Victorin et d'arriver avec des propositions concrètes aussi pour le comté. Donc, je sais qu'elle a extrêmement hâte à cette campagne électorale, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle va être déclenchée.
Non, c'est ça, mais on n'a toujours pas de date pour Marie-Victorin. Votre réaction à la candidate qui va se présenter, Anne Cazabonne, qui a été qui est la candidate d'Éric Duhem?
Ben écoutez, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va être divertissant avec cette candidate. Mais bon, je lui souhaite bonne chance. Nous, on va faire campagne avec notre candidate qui, je crois, non seulement comprend bien les enjeux de Marie-Victorin, mais est déterminée, comme je dis, très, très à l'écoute. Une super personnalité pour ceux qui la connaissent et ceux qui vont la découvrir. Une super personnalité. Alors, on va être tous derrière notre candidate.
Alors aujourd'hui, c'est la rentrée à l'école et ensuite, au niveau de la Société des alcools, on demande le passeport sanitaire et les employés ne sont pas vaccinés. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Ben écoutez, nous, dès le départ, on avait demandé que ce soit la vaccination pour tous, ce qui n'a pas été fait. Maintenant, là, ce qu'il faut... honnêtement, là, c'est de regarder les écoles où il y a des taux de vaccination qui sont plus faibles, déployer des cliniques mobiles qui permettent d'aller accélérer la vaccination de nos plus jeunes. Je pense que c'est ça qu'il faut, ce sur quoi il faut miser. C'est ce qu'on a demandé d'ailleurs au gouvernement. Donc, dans les différentes mesures qu'on avait, il y avait ce volet de l'accélération de vaccination, le volet des tests rapides, puis le volet évidemment du contrôle de la ventilation dans nos écoles.
Alors, en terminant, une question de femmes et politiques. Plusieurs sont passées par là où vous êtes passées, c'est-à-dire Pauline Marois était la première. Ça fait quelques mois que vous êtes chef. Est-ce que vous trouvez ça difficile? Est-ce que vous trouvez que vous devez en montrer plus? Est-ce que c'est encore le Boys Club? Ressentez-vous tout ça?
C'est sûr que c'est pas facile. C'est pas facile au quotidien. Mais c'est également en balance. Il y a plein de choses à faire et je parlais d'être une femme en politique, ça présente nombre de défis, mais il y en a plus qu'avant. Puis moi, j'espère que chaque personne qui rentre en politique est un genre de modèle pour la génération qui suit et les gens se disent, ben non, on est capable d'en faire, on est capable de faire avancer les dossiers. C'est extrêmement stimulant en même temps. Donc, est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est stimulant? Oui. Puis moi, j'encouragerais les gens à considérer la chose. Mm-hmm. On a regardé dans les élections municipales à quel point plusieurs femmes se sont présentées et ont été élues. Moi, je pense justement que c'est un message qu'on envoie qui est très fort aux femmes. Ça représente la moitié de la population. On aimerait bien que ce soit le cas également à l'Assemblée nationale.
Et vous avez dit dans l'entrevue que vous aviez trois enfants. Comment c'est le politique et mère de famille? Est-ce que ça va bien? Ça fait bon ménage ou c'est beaucoup d'agenda et beaucoup d'organisation? C'est comment?
c'est un défi quotidien. C'est un défi quotidien. Je dis toujours, est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est faisable? Oui. Mais vous savez quoi, les enfants après, manquent beaucoup dans des réalités très concrètes. Si je peux pas rentrer chez moi puis ne pas vivre ce que mes enfants, les questions qu'ils me posent sur ce qui s'est passé dans leur journée, sur ce qui arrive à l'école, les questions qu'ils se posent, ça tente dans la réalité. Et ça, c'est extrêmement important aussi comme politicien, de ne pas être déconnecté de ce qui se passe autour de toi. Alors, ce que je vis comme mère avec les hauts et les bas avec les enfants, ben je sais qu'on est plusieurs millions à le vivre. Et je pense que ça te permet aussi d'être un meilleur politicien.
Merci beaucoup, Dominique Anglade.
Merci beaucoup, Mme Stankis, c'est un plaisir.
Plaisir, au revoir.